France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
8h36 sur France Culture, notre invité culture. Eh bien, on repart, nous aussi, du côté du Festival de cinéma de La Rochelle. La Guillonie, en été, il est l'un des pères de l'animation à la française. Après avoir été honoré à Annecy, cette année, le réalisateur du si poétique et si contemplatif, Louise en hiver, est l'invité vedette de la 47e édition du Festival donc de cinéma de La Rochelle, qui tisse sa toile jusqu'au 7 juillet. Présentation là-bas de l'ensemble de sa filmographie, du court au long, et une exposition à la médiathèque de La Rochelle, à découvrir tout l'été à l'occasion de la restauration de son film Gwen, le livre de sable. Samedi, son nouveau long, Le voyage du prince, sera projeté en avant-première avant une sortie en salle annoncée pour le 4 décembre prochain, le prochain La Guillonie, en hiver, donc extrait.
Est-ce là ton pays, Tom? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières. Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville?
On apprend à l'école que cela s'est fait en 6 jours.
En 6 jours, extraordinaire. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille!
Ailleurs? Je crois que pour les Nuko, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette merveille, comme tu dis. Il n'y en a pas d'autre.
En duplex avec nous de France Bleu, La Rochelle, Jean-François Laguioni, bonjour.
Bonjour.
Jean-François Laguioni l'été, Jean-François Laguioni en hiver. Vous n'avez pas de saison, vous, en fait?
Non, non, hein, au contraire. Je suis toute saison confondue. Je voudrais juste ajouter que le Voyage du Prince est une co-réalisation avec Xavier Picard, qui est quelqu'un de merveilleux, avec qui je me suis bien entendu pour faire ce film.
Avec qui vous avez travaillé. C'est un conte philosophique qui s'inscrirait dans la lignée du Château des Singes. J'emploie le conditionnel parce que je ne l'ai pas vu encore et à regret. Le Château des Singes, sorti en 98, il y a plus de 20 ans. Le prince échoue sur un rivage inconnu. Il va être recueilli par le jeune Tom et sa famille, des chercheurs en exil. C'est un voyage dans le temps, tel que vous l'avez pensé, un bond en avant qui vous permet de poser un regard sur le monde industriel, sur le progrès, sur la ville. Comme le singe, à l'époque, tombé de sa canopée, découvrait le monde d'en bas, il y a 20 ans. De quoi vous êtes-vous inspiré pour dessiner la carte ou la cartographie de ce voyage du prince?
Oh, c'est une forme de fable, de petit conte, comme j'en écris toujours avant de faire mes films. Et je ne peux pas dire qu'il y ait une inspiration très, très politique ou très philosophique. Moi, je me laisse plutôt aller vers des rêves et des rêves de voyage. Alors, il y a toujours un voyage dans mes films, et celui-ci m'a été quand même, vous avez raison, un petit peu inspiré par certains drames de la migration. Donc, le film commence en effet sur ce malheureux prince qui est à moitié noyé et qui est échoué sur une plage de ce rivage inconnu. C'est quelque chose qui va me permettre de renouer, en effet, avec un film que j'ai fait il y a plusieurs années et qui racontait un voyage vertical entre les gens qui habitent la canopée. Et il y en a un de ces jeunes singes qui est tombé chez les singes d'en bas. Alors, il y avait les singes d'en haut, les singes d'en bas, et maintenant il y a les Nuko, c'est-à-dire les singes qui sont de l'autre côté de la mer, et qui représentent une société qui nous ressemble quand même beaucoup.
On peut dire, Jean-François Laguioni, que vous avez deux sources d'inspiration, à la fois le monde qui nous entoure et aussi votre propre monde, votre histoire, d'où vous venez. Vous travaillez souvent en diptyque, on l'entend là avec ce voyage du prince qui fait écho à celui du singe sorti en 98. On peut penser aussi à Louise en hiver qui verra bientôt, puisque je crois que c'est le nouveau projet sur lequel vous travaillez, Slocum, un pendant apparaître dans quelques temps, avec cette fois une inspiration. Un prochain film qui évoquera la figure de votre père quand Louise en hiver était une sorte d'hommage à la mer, hein, c'est ça?
Oui, la mer est souvent présente dans mes histoires.
Alors, toutes les mers, M-E-R et la mer oui, maternelle.
Voilà, et puis là en plus il y a le père, ce qui complique singulièrement les choses. Mais j'ai essayé de faire un parallèle entre deux voyages. Un voyage réel qui est celui de Slocum, qui est le grand navigateur qui a fait le premier tour du monde à la voile en solitaire en 1895, et le voyage immobile de mon papa, qui a construit un bateau dans son jardin, un bateau qu'il n'a jamais terminé. Et c'est une aventure que j'ai, un voyage que j'ai vécu de près. Donc la mise en parallèle de ces deux voyages donne quelque chose, bon, qui va être quand même assez étrange, et sur lequel je vais mettre toute ma passion et mes rêves de liberté.
Et c'est ce voyage immobile de votre père qui vous a donné, vous, envie de vous échapper à travers l'animation, à travers le dessin. Il vous lisait aussi des textes de littérature voyageuse.
Oui, c'est probable. La bibliothèque de la maison n'était constituée que de récits de voyage, journaux de bord et des choses comme ça. Donc c'était ma lecture favorite. Donc il est probable que j'en suis sorti complètement baigné d'eau salée.
Il y a des virus qu'on chope rapidement à l'enfance. Je vous propose d'écouter les mots de quelqu'un qui vous est cher. C'était Paul Grimaud, le réalisateur du Roi et l'Oiseau, qu'on présente souvent un peu pour vous aussi comme une figure tutélaire. Écoutez.
Ce qui est formidable avec vous, Monsieur Grimaud, c'est que non seulement vous dessinez, mais vous animez vos dessins. C'est un métier, évidemment.
Oui, c'est un métier. Un métier difficile. Faut l'aimer pour le faire.
Moi, quand j'étais petit et que mes parents me confiaient une boîte d'aquarelle, il y avait autant de peinture sur mes doigts que sur le papier. Et vous?
Moi aussi.
Ah oui?
Oh oui, ça, je n'ai pas échappé à la règle. C'est le plus grave, c'est que je dessinais beaucoup. Je barbouillais avec de la craie, des encres, de la gouache, des dessins à la plume, tas de choses. J'ai commencé par dessiner, bien sûr, et puis j'étais attiré rapidement par le cinéma, qui est un moyen d'expression formidable. Puis un jour, j'ai rencontré Pierre Prévert qui me dit « Pourquoi tu ne fais pas de dessin animé puisque tu dessines et tu sais ce que c'est que la pellicule ?» Ben, j'ai dit « Dans le fond, oui, après tout. » Alors j'ai commencé à faire du dessin animé, ça se passait à peu près en 35-36.
L'aquarelle, la gouache, la craie, l'encre, le sable qu'on entendait évoquer dans la bouche de Paul Grimaud. Quelle est votre matière à vous, Jean-François Laguioni?
Alors je dirais peut-être que j'ajouterais la musique, parce que le film d'animation, c'est vrai, c'est un moyen d'expression absolument extraordinaire, puisqu'il arrive à réunir des tas de choses qu'on aurait aimé faire pleinement séparément, et qu'on n'a peut-être pas osé faire, et entre l'écriture, entre le mime par exemple, qui est quelque chose qui motive l'animation, la musique qui est essentielle, la peinture évidemment, et puis le cinéma qui réunit le tout, ce qui fait que on fait quand même avant tout du cinéma, mais avec tout un tas d'ingrédients qui sont assez extraordinaires les uns par rapport aux autres.
Et on n'a pas évoqué le papier découpé, autre technique que vous avez expérimentée et réhabilitée, Jean-François Laguioni, les différentes techniques d'animation. Vous passez aisément de l'une à l'autre, vous avez une sorte de petit atelier dans lequel vous pouvez tout essayer, tout réaliser.
Oui, j'ai essayé plusieurs techniques, mais je ne passe pas de l'une à l'autre aussi facilement que vous semblez le dire, c'est même assez difficile. J'ai eu quelques problèmes avec la 3D, qui est une animation avec assistance ordinateur. Mais je travaille avec des gens qui sont bien plus forts que moi et qui m'aident à raconter mes histoires avec tous les moyens possibles.
La 3D, la première expérience, c'était pour quel film? Louise en hiver, il y a de la 3D. Hein,
oui, voilà. Auparavant, il y avait un petit peu de 3D dans Le Tableau, que j'ai fait avec Yannick Leray, et je me suis rendu compte que c'est une technique que je j'aimais pas du tout quand je l'ai découverte, et puis que j'ai appris à la connaître parce que ça permet une des finesses d'animation que l'on n'avait pas avec les techniques traditionnelles et qui permettent de travailler avec l'animateur comme avec un véritable comédien. L'animateur, c'est le comédien du film.
Magnifique le tableau où s'affrontent les pas finis et les, rappelez-moi.
Les Toupins.
Les Toupins, voilà. En fait, c'est un peintre qui n'a pas achevé son œuvre et qui n'a pas terminé de peindre et dessiner l'ensemble des personnages. Alors, les Pafinis sont méprisés par les Toupins. Et les Pafinis vont décider de partir à la recherche du peintre pour qu'il achève son travail et leur redonne vie. On va écouter un extrait de Louise en hiver, votre film Jean-François Laguioni, sorti en 2016.
Les rêves que je fais depuis quelques jours, est-ce que ce sont mes souvenirs? Ça vient comme de petites vagues mystérieuses. C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important.
Dans le film qui sortira tout prochainement en décembre, Jean-François Laguioni, Le Voyage du Prince, on imagine qu'on retrouvera tout ce qui fait le sel de votre imaginaire, à la fois la mer que vous avez évoquée, le voyage, les paysages, la solitude et le temps qui passe. Temps très présent puisqu'il rythme ce film Louise en hiver, sorti il y a 3 ans. Film qui fait aussi une place de choix aux souvenirs, à la perte. Quelle valeur vous accordez à vos propres souvenirs? Est-ce que vous les associez plutôt à la mélancolie? Vous tentez de les chasser, ces souvenirs, quand ils viennent vous perturber, ou est-ce qu'au contraire vous les protégez comme des trésors?
Alors je les protège évidemment et je pense qu'ils m'aident à trouver davantage de liberté maintenant que je suis un vieux bonhomme que quand j'étais jeune. Et j'en profite, je vais chercher dans ces souvenirs d'enfance les choses que j'aurais pu en effet faire et que je n'ai peut-être pas osé faire.
Qu'est-ce qui a peuplé cet univers, le vrai, la réalité, votre enfance à vous, Jean-François Laguioni?
Oh, c'était les vacances au bord de la mer. C'est assez idiot de dire une chose aussi conventionnelle, mais j'étais un enfant très très solitaire comme beaucoup, et je pouvais passer la journée entière tout seul assis dans le sable à regarder les petites vagues qui viennent mourir sur le sable. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé raconté dans Louise en hiver, et là on vient de passer un extrait avec la voix de Dominique Fraud. Et ça a été vraiment une grande rencontre, et le comédien, quand j'ai un narrateur dans le film, m'aide beaucoup à trouver justement ce que je ne peux pas trouver tout seul. Il apporte quelque chose en plus, comme Enrico Di Giovanni dans Le Voyage du Prince, qui va faire la voix du personnage principal.
Il vous aide à incarner vos personnages, mais qui sont pourtant d'ores et déjà dessinés, non? Quand la voix du comédien vient se poser sur vos héros ou vos héroïnes.
Oui, mais souvent j'ai envie de les redessiner une fois que j'ai rencontré le comédien qui va apporter sa voix. Et c'est ce qui s'est passé avec Louise. Je l'ai redessinée, je l'ai rendue un petit peu plus grosse, un petit peu plus ferme, plus lourde, avec un caractère de cochon bien ancré.
Et ça, l'économie du cinéma d'animation vous permet de faire ça, c'est-à-dire d'y revenir, de reprendre votre copie, de retravailler?
Oui, mais c'est pas forcément facile, parce que le producteur pourrait commencer à rouspéter. Mais je m'arrange pour enregistrer les voix et la musique bien avant de commencer la réalisation des dessins.
Là, vos producteurs pour le prochain film, Le Voyage du Prince, seront français. Ce sont les producteurs de Ma Vie de Courgette, qui avait été scénarisé ce film par Céline Sciamma et réalisé par Claude Barras. Très beau film, par ailleurs, dont on a parlé sur France Culture. Il sera conçu, Le Voyage du Prince, si j'ai bien lu, entre le Luxembourg, le Canada et la France, Angoulême. Une production française, c'est important, Jean-François Laguioni, de défendre ce secteur aujourd'hui face aux géants américains, Disney, Pixar et japonais aussi, un grand producteur de films d'animation.
Oui, et les Japonais nous ont quand même aidé beaucoup à changer l'opinion du public vis-à-vis du film d'animation, que Le public considérait encore un peu trop que c'était du cinéma pour enfants. Et donc, ça... Moi,
Vous pensez au génie de Ghibli, à Miyazaki et Takahata, qui avaient rencontré d'ailleurs Paul Grimaud. Vous les avez rencontrés, vous aussi?
Oui, je les ai rencontrés. Et c'est vrai qu'on sent une proximité entre ces deux cinémas. Et la France, quand même, est un moteur. Et grâce à tout un tas de systèmes d'aide et de subventions de la culture, qu'on semble regretter en ce moment dans certains secteurs, et ça serait vraiment dramatique si on n'avait plus cet appui.
Et on a des très bons studios d'animation en France, Folimage par exemple, La Fabrique aussi, Aventure qui a commencé en 1979. Vous évoquiez votre côté très solitaire dans votre enfance, lors de vos vacances en Normandie ou face à la mer. Vos premiers courts-métrages vous ont permis, dans les années 60, de continuer à pratiquer en solitaire l'animation. C'est vrai que le dessin sur des formats courts comme ça se joue souvent assez seul. En passant au long métrage, vous avez dû quitter cette solitude du métier pour trouver l'ambiance collective d'une équipe.
Oui, de toute façon, j'avais envie de faire du cinéma avec tous ces aspects collectifs. J'ai travaillé trop longtemps tout seul et mon premier long métrage a été une aventure extraordinaire. Gwen, on n'était pas nombreux, c'était un tout petit équipage, on était 6 au départ, on a fini le film 4 ans plus tard, on était 10, ce qui est dingue, parce que ensuite j'ai fait des films où on était 300, sur le Château des Singes par exemple, mais cette première aventure m'a... permis aussi de me libérer du dessin en confiant la peinture des décors, par exemple, à des grands décorateurs comme Palacios, comme Jean-Paul Anstin, etc. Et me consacrer à ce qui est pour moi l'essentiel du travail, c'est la mise en scène.
Le récit.
Mmh.
Libéré du dessin, c'est-à-dire que parfois, pour vous, aujourd'hui encore, dessiner n'est pas une chose facile. Le crayon ne suit pas naturellement le mouvement de votre main et de votre esprit.
Non, c'est plus compliqué que ça. Le dessin peut être un empêchement. Moi, je le vois plutôt comme un outil. Bon, c'est une brouette, c'est quelque chose dans lequel on va mettre quelque chose de plus profond. Le dessin reste souvent à la surface, donc il faut creuser un peu plus. Et puis le cinéma, c'est ça quand même. Ce n'est pas seulement que de l'image.
Qu'est-ce qui différencie vraiment aujourd'hui le cinéma d'animation du cinéma en prise de vue réelle? Vous avez fait deux tentatives dans les années 70. Pourquoi vous en êtes revenu à l'animation et pourquoi c'est un genre que vous ne quittez pas, qui exprime ce que vous avez envie de raconter mieux que les films, les longs métrages en prise de vue réelle?
Oui, mes premières tentatives étaient... Vous savez, les cinéastes d'animation rêvent toujours de faire un film en prise de vue réelle parce qu'ils pensent que ça va plus vite, ce qui n'est pas souvent le cas. Et j'ai fait des tentatives plutôt maladroites dans ce domaine. Et je suis revenu à ce que je maîtrise quand même un petit peu mieux. Mais pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est avant tout du cinéma. Mon cinéma, ce sont des petites histoires et ça n'est rien de plus. C'est 90% du film. Et le fait de maîtriser le dessin, ça me permet quand même d'atteindre l'essentiel, c'est-à-dire le cœur du film.
J'ai dit la Normandie tout à l'heure, j'aurais dû dire la Bretagne, Jean-François Laguioni.
Oui.
Votre région d'enfance, c'était quoi?
Oh, c'était plutôt la Normandie.
Ah, c'était la Normandie, d'accord.
La plage du Calvados.
J'ai pas commis de faute régionale. C'est dangereux, hein, de nos jours, de confondre les deux. À qui vous adressez vos films aujourd'hui, Jean-François Laguioni? Est-ce que c'est un jeune public? Est-ce que c'est à vous-même, tout simplement?
Non, pas forcément. C'est le problème de la distribution, ça. C'est-à-dire, le distributeur, comme dans l'édition, d'ailleurs, se demande quelle va être un petit peu la cible de son travail. Moi, c'est pas du tout mon problème. Mes histoires, qui sont des histoires qui s'adressent à tout le monde, peuvent être... même Louise en hiver, qui est l'histoire d'une vieille dame, je sais que les enfants qui ont vu le film, parfois par hasard, ont été tout à fait intéressés par ce genre de truc.
Bah oui, d'autant qu'à côté de Louise, il y a quand même Pépère et qu'on a tous envie de l'adopter, ce chien qui parle parfois.
Oui, oui. Et puis, des histoires qui paraissent plus ingénues, maintenant, sont vraiment tout à fait acceptées par le public adulte. Je pense que ça va être le cas du Voyage du Prince.
Les mondes imaginaires de Jean-François Laguioni, c'est aussi un programme de 7 courts-métrages restaurés et numérisés en partenariat avec l'agence du court-métrage. 7 films que vous avez réalisés entre 1964 et 1978, c'est-à-dire plus d'une décennie de création. Ils sortiront en salle le 2 octobre. On va écouter un extrait de La Demoiselle et le violoncelliste. De dialogue dans ces courts-métrages, de la musique ou du bruitage. Ici, c'est un extrait du concerto en ré pour violoncelle de Lalo que vous aviez choisi, Jean-François Laguioni, pour illustrer ce court-métrage. On y retrouve aussi notamment la figure du diable. On y retrouve aussi des personnages que vous aimez inventer, jeunes ou plus vieux. Vous les regardez avec comment ces courts-métrages que vous avez imaginés, les premiers dans les années 60-70, avec une tendresse par rapport aux petites erreurs techniques que vous avez pu avoir dans le dessin, mais déjà avec attachement sur la force de l'imaginaire que vous avez pu investir dedans.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je regarde ces films maintenant que je n'aimais pas revoir auparavant, un petit peu comme on regarde des photos de du passé. Mais dans les films que je fais maintenant, comme celui que je prépare, en effet, il y a, j'essaie de mettre le maximum de, comment on pourrait dire, de vérité, de par rapport à mes pensées, à mes rêves, de liberté, des choses comme ça qui sont comme dans les cours. Aussi essentiel au récit qu'il ne l'était dans les courts-métrages.
Voilà, et de faire tomber le masque si présent à travers cette série de courts-métrages, de celui de l'acteur au masque du diable. Un grand merci à vous, Jean-François Laguioni, d'avoir été avec nous en duplex de France Bleu La Rochelle, où se poursuit la 47e édition du festival. On vous retrouvera notamment en discussion samedi de mémoire avec Xavier Topor. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.